Radio Prague, les informations.
La région sinistrée en Bohême du Nord lutte contre les conséquences des inondations de ce week-end. Vote de confiance à la Chambre des députés mardi soir ou mercredi. Václav Klaus a rencontré son homologue polonais mardi à l'occasion du pèlerinage de la Saint-Laurent. Les travaux de déblayage et de nettoyage se poursuivent dans les villes et communes ravagées par les inondations catastrophiques de ce week-end. Dans certaines localités, l'eau, le gaz et l'électricité sont toujours coupés. Les problèmes d'approvisionnement en eau potable persistent encore dans 14 communes. On a signalé aussi plusieurs cas de pillage dans les maisons abandonnées par leurs propriétaires. Plusieurs communes sont toujours coupées du reste du pays parce que certaines routes ont été détruites par l'eau. La météo annonce d'ores et déjà des pluies intenses pour ce jeudi et vendredi. Les crues ont fait leur quatrième victime. D'après le dernier bilan, le corps d'une femme de 73 ans qui avait disparu dans la région de Liberec aurait été repêché en Pologne. C'est ce mardi après-midi que la Chambre des députés s'est réunie pour débattre du gouvernement de coalition tripartite ODS, Top 09 et Affaires publiques, formé par Peter Nečas suite aux législatives de mai dernier. Le vote de confiance devrait se dérouler ce mardi soir ou mercredi, un vote de confiance dont le résultat devrait être sans surprise puisque les trois partis de la coalition ont la majorité au Parlement. Suite aux inondations, les usines automobiles Škoda et TPCA pourraient arrêter la production la semaine prochaine. Il leur manque en effet des plafonds intérieurs fabriqués par la société Grupo Antolin Bohemia à Hrastava, située dans une région durement touchée par les crues. Pour l'heure, la production continue, mais on ne sait pas comment ça va continuer, a précisé le porte-parole de Škoda Auto. Le président Václav Klaus a rencontré son homologue polonais Bronisław Komorowski ce mardi à l'occasion du traditionnel pèlerinage de la Saint-Laurent sur le mont Śnieżka. C'est un lieu peu habituel qui a été choisi pour la première rencontre des deux chefs d'État voisins dans le massif de Krkonoše. Le président tchèque participe traditionnellement au pèlerinage de la Saint-Laurent. À cette occasion, une messe a été célébrée au sommet du mont Śnieżka par l'archevêque de Prague et primat de l'Église catholique tchèque Dominik Duka. La baisse des salaires dans l'administration d'État et les licenciements dans ce secteur risquent de nuire au fonctionnement de l'État. Les employés hautement qualifiés pourraient déserter le secteur public. Telle est la réaction de la Confédération tchéco-morave des syndicats à l'intention du gouvernement de réduire l'année prochaine de 10% les salaires dans l'administration d'État. Les syndicats des policiers et des sapeurs-pompiers tchèques sont prêts à organiser des protestations également contre les restrictions salariales envisagées par le gouvernement. La Cour supérieure de Prague poursuit la procédure ouverte contre le vice-président de la Cour suprême de République tchèque, Pavel Kučera. La plainte contre lui a été portée par la présidente de la Cour suprême, Iva Brožová. Elle lui reproche ses interventions en faveur de l'ancien ministre Jiří Čunek impliqué dans une affaire de corruption. Météo, mardi, jour de fête des Laurents, le ciel en République tchèque est nuageux à ensoleillé selon les régions. Les températures diurnes se situent entre 22 et 26 degrés pour les maximales. Mercredi, le ciel sera d'abord clair puis variable avec des passages pluvieux sur l'ouest du pays. Les températures varieront de 24 à 28 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous reviendrons encore une fois sur les inondations catastrophiques de ce week-end avant d'évoquer le chômage en hausse une fois de plus. Puis nous prendrons la clé des champs et plus précisément des champs de pavots. La République tchèque est en effet le plus gros producteur de pavots au monde à destination de l'industrie agroalimentaire. Bonne écoute de ce programme.
«
La situation se normalise peu à peu dans les régions frappées par des pluies torrentielles au début du week-end et des inondations qui ont tout ravagé sur leur passage. Alors que les rivières sont revenues ou reviennent dans leur lit, l'heure est au premier bilan, mais pour certains aussi au premier cas de vandalisme. Alors que le niveau d'alerte 3 n'est plus maintenu que sur une seule rivière du sud de la Bohême, les communes sortent groggy de leur lutte contre les éléments. Dans certains villages, plusieurs cas de vandalisme ou de cambriolage viennent se rajouter à la détresse des habitants. Lubomír Kaplan de la police tchèque.
Il s'agit surtout de cambriolage de voitures, de vol d'essence. Sinon, il y a aussi des cambriolages à l'intérieur des maisons. Nous avons renforcé nos patrouilles, qu'il s'agisse de membres de la police criminelle ou bien qui viennent de postes de police de Liberec.
Dans la nuit de lundi à mardi, la police tchèque a interpellé plusieurs ressortissants étrangers pris en flagrant délit de cambriolage sur le front des inondations. Le calme est un peu revenu avec la journée de mardi. Le ciel est dégagé sur la majeure partie du pays et les météorologues n'annoncent plus de fortes précipitations pour la journée. En tout cas, au moins pas jusqu'à la fin de la semaine. Ils mettent d'ores et déjà en garde contre de nouvelles précipitations qui pourraient survenir dans la nuit de jeudi à vendredi. En attendant, de nombreux foyers sont encore sans électricité et sans gaz. Et du côté des communes, mais aussi au niveau des régions, on commente la proposition de Miroslav Kalousek de taxer les citoyens à hauteur de 100 couronnes. Si pour le ministre de l'Intérieur, Radek Jón, il s'agit là d'un geste de solidarité, certaines communes trouvent que l'action vient un peu trop tard, comme Jan Mečíř, le maire de Stružnice.
Le gouvernement devrait cesser d'imaginer des impôts du type de cette taxe inondation, parce qu'après, on va se retrouver avec des taxes en cas de grand vent ou pour n'importe quel phénomène naturel qui peut nous toucher. Le gouvernement devrait plutôt mener des actions préventives.
Certains souhaiteraient voir la création d'un fonds déblocable à tout moment en cas d'inondation, mais d'autres rétorquent que c'est une mesure inutile, puisque l'an prochain, il pourrait ne pas y avoir de crue. En attendant, en tout cas, plusieurs communes sinistrées vont devoir encore attendre que l'eau disparaisse totalement avant de pouvoir envisager la suite. Le ministère du Travail a communiqué en début de semaine les chiffres du chômage à la fin du mois de juillet. Un chômage en augmentation en République tchèque, mais des chiffres à lire avec précaution liés à la saison estivale. Plus de détails avec Anne-Claire Veluire.
500 284 personnes sans emploi enregistrées dans les agences pour l'emploi tchèque, ce sont 4 784 de plus qu'à la fin du mois de juin. Après une baisse de 4 mois consécutives, les chiffres du chômage sont de nouveau à la hausse en plein cœur de la saison estivale et c'est justement cette période de l'année qui explique cette augmentation. Tomáš Wolf, analyste de la société Citfin, marché financier.
Parmi les principales raisons se trouve, comme chaque année à la même période, l'augmentation des nouveaux jeunes diplômés qui viennent s'inscrire dans les agences pour l'emploi.
Pas de quoi affoler les spécialistes, donc, qui observent au passage qu'ils s'attendaient à un chiffre encore plus élevé pour ce mois de juillet. Néanmoins, sur le long terme, les prévisions ne sont pas très optimistes puisque le ministre du Travail et des Affaires sociales a estimé que le taux de chômage en République tchèque pourrait se situer à la fin de l'année entre 9,2% et 9,6%. Pavel Sobíšek est économiste pour la banque UniCredit.
Je considère l'estimation de cette augmentation comme réaliste, même si nous avons fait une estimation un peu plus optimiste. Dans les mois qui viennent, le taux de chômage devrait rester au niveau où il se trouve actuellement. D'un côté, de nouveaux jeunes diplômés vont arriver sur le marché du travail, mais de l'autre côté, l'économie va continuer à renouveler certains emplois qui avaient été supprimés ou suspendus pendant la crise. Il est possible en théorie que l'on atteigne cette barre des 10% en janvier, mais je suis optimiste. Je pense que, comme cette année, le taux de chômage restera sous les 10%.
C'est ainsi à Prague et dans sa région que les agences pour l'emploi ont enregistré la plus grosse augmentation du chômage, mais c'est aussi la capitale tchèque qui compte le plus de jeunes diplômés. Ce n'est pas le cas des régions du nord de la Bohême et de la Moravie qui détiennent toujours le record en matière de chômage en République tchèque.
Dans la suite de cette émission, nous vous proposons d'aller faire un tour à la campagne, juste à la sortie de la capitale tchèque, pour parler non pas des inondations cette fois-ci, mais d'une culture particulière, la culture du pavot. Depuis quelques années, la République tchèque est le premier producteur mondial de pavot licite, évidemment celui utilisé dans l'industrie agroalimentaire. La production tchèque représente même près de 2/3 de la production mondiale, loin devant la Turquie, selon les chiffres de la FAO. Juste avant la moisson, Radio Prague est allé à la rencontre d'un de ces nombreux agriculteurs tchèques qui consacrent plusieurs dizaines d'hectares à la culture du pavot, Alexis Rosenzweig.
Nous sommes aujourd'hui à Djetovice, ou à proximité du petit village de Djetovice, c'est seulement à quelques kilomètres de Prague, et nous nous trouvons dans un champ de pavot. Parce qu'il faut savoir, et oui, que le pavot est une spécialité tchèque et que la République tchèque est devenue le principal producteur de pavot légal au monde. Et à côté de moi se trouve le propriétaire de ce champ de pavot qui est monsieur Milan Soukup. Bonjour, dobrý den.
Dobrý den.
Alors, ma première question est, depuis quand est-ce que vous faites pousser du pavot et en quelle quantité?
Tak má pěstujeme od roku 1994, to znamená 16 let, a v současné době nebo v letošním roce máme o 177 hektarů.
Alors, monsieur Soukup nous dit qu'il cultive du pavot depuis 1994 et qu'il a aujourd'hui 77 hectares, ce qui représente une petite quantité de sa production totale dans sa coopérative agricole. Quand on parle du pavot en général, c'est pour parler du pavot afghan, par exemple, avec les problèmes de drogue qui en découlent. Alors la question, une des questions qui nous intéresse également aujourd'hui, est de savoir quelle est la différence entre le pavot tchèque et le pavot afghan avec lequel on fabrique de l'opium, puis ensuite de l'héroïne. Quelles sont les propriétés de ce pavot tchèque?
Tak, pane redaktore, podívejte se, když utrhnu tady tu makovičku a rozloupnu ji, tak vidíte, že ten mák je krásně modrý. Což afgánský mák takové vlastnosti nemá, a ten afgánský mák v podstatě nemá tak dobré chuťové vlastnosti, protože afgánský mák je pěstovaný na morfin a nikoliv teda jako potrava pro lidský organismus. My pěstujeme samozřejmě odrůdy, které jsou potravinové, a vlastně ta makovina, která obsahuje morfin, je pro nás odpadním materiálem. Ale on to není odpadní materiál v pravém slova smyslu, protože my ho dále zpracováváme, ale expedujeme do firmy Zentiva, do Slovenské republiky, kde z něj teda potom vyrábějí morfin.
Alors, monsieur Soukup vient d'arracher une des têtes de ce pavot et de l'ouvrir, et de cette tête, on peut voir, je dirais, une centaine de petites graines de couleur bleue. Il nous explique que la vraie différence, c'est que le pavot tchèque est du pavot alimentaire, qui est connu pour son bon goût, et c'est un pavot qu'on appelle le pavot bleu, et dont le goût est particulièrement apprécié dans les pays voisins et dans les pays slaves où on consomme beaucoup de pavot. Contrairement aux pavots qui poussent en Afghanistan pour fabriquer de l'opium, les têtes et ce qui contient en fait la morphine à la base, dans le pavot afghan le taux est très élevé, dans le pavot tchèque ce taux est très réduit, mais Monsieur Soukup nous explique qu'il reste quand même un faible taux de morphine dans cette tête de la fleur de pavot, et qu'avec, donc il prend les graines pour l'industrie agroalimentaire qu'il revend, et qu'à la tête de la fleur de pavot est revendue à une grande firme pharmaceutique de la région d'Europe centrale, la firme Zentiva, donc pour la fabrication de médicaments. Je vous remercie, monsieur Soukup, et nous allons reparler plus longuement de cette culture du pavot en République tchèque dans une prochaine émission. Děkuji moc krát, merci beaucoup.
Děkuji také za rozhovor, mějte se moc hezky.
Dans l'agenda concert, le DJ américain DJ Shadow est à Prague ce mardi. Il mixera ce soir au Luterna Music Bar. On l'écoute. We'll be right back. Voilà, c'est la fin des événements. Tout de suite retrouvez la rubrique Panorama.
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 République tchèque.
Depuis quelques années, le poker est un véritable phénomène de société. Aux États-Unis, depuis maintenant longtemps, mais aujourd'hui également en Europe et ailleurs dans le monde. Les chaînes de télévision sportive diffusent régulièrement des tournois de poker, commentés comme de véritables matchs de football, et les ventes de sets complets de poker, cartes et jetons compris pour jouer à la maison ne cessent d'augmenter. La République tchèque, terre généralement accueillante pour les jeux de casino, n'échappe pas à cette mode et plusieurs tournois internationaux sont organisés dans ces grandes villes. Nous allons faire dans ce panorama un petit tour dans l'hôtel Hilton de Prague où s'est tenu le week-end passé un des plus grands tournois de poker de l'année, l'Unibet Open de Prague.
20 big blind 40. Wish all the ladies the best of luck. Dealers, please shuffle up and deal.
Voici donc l'ambiance sonore d'une salle de poker. Des dizaines de tables regroupées dans une grande salle. Au fond, une table spéciale entourée de caméras de télévision qui diffusent en direct sur le site de la société organisatrice du tournoi les parties des joueurs les plus expérimentés. À chaque table, une petite dizaine de joueurs autour du croupier. En tout, plus de 200 passionnés qui, comme vous avez pu l'entendre, tripotent frénétiquement leurs jetons d'un air plus ou moins détaché, parfois cachés derrière des lunettes de soleil ou souvent munis de casques audio et baladeur MP3 pour se couper du monde et garder leur concentration. Des personnes de tout âge, mais beaucoup de jeunes gens qui semblent tout droit sortis de leur chambre d'adolescent chez leurs parents, où ils s'entraînent dans les tournois en ligne et sur Internet. On compte relativement peu de femmes, d'où l'organisation, lors de cette Unibet Open, d'un Ladies Open. Le tournoi dure le temps d'un week-end et rassemble des personnes venues du monde entier. Dans la salle de presse, des dizaines de blogueurs commentent en direct sur les sites Internet spécialisés les résultats des joueurs. Ladislav Widerman est un des managers pour l'Europe centrale et orientale de la société Unibet. Il présente ce tournoi et les activités de cette société de jeux en ligne.
My jsme ze společnosti Unibet, unibet.com, je to společnost, která provozuje internet.
Nous sommes la société Unibet. Unibet.com est une société qui pratique des paris en ligne sur Internet, ainsi que le poker sur Internet et les jeux de casino. Nous organisons ce tournoi international de poker. L'inscription au tournoi est relativement haute, fixée à 1 500 €, plus 150 € de taxes. Nous avons dans ce tournoi 224 joueurs. Il dure de jeudi à dimanche, jour où nous aurons la table des vainqueurs et le grand vainqueur partira avec une somme relativement importante, autour de 150 000 €.
Le tournoi a été organisé dans l'hôtel le plus luxueux de la capitale tchèque. Ladislav Widerman explique que ce n'est naturellement pas un hasard.
Obecně ty velké pokrové turnaje potřebují.
D'une façon générale, ces grands tournois de poker ont besoin d'un grand espace, d'une grande salle où l'on peut rassembler toutes les tables de poker. Dans ce tournoi, nous avons installé 26 tables de poker. Les salles qui peuvent nous accueillir sont généralement des salles de congrès ou des hôtels parce que, qu'afin que le tournoi soit entièrement légal, il est nécessaire que ces salles aient une licence de casino. Il est donc plus facile d'organiser un événement dans un hôtel qui a déjà une licence de casino. Pour les joueurs, c'est également plus pratique car ils ont tout sur place à disposition. Pour nous aussi, car nous réservons tout en même temps.
L'hôtel Hilton s'est donc retrouvé le temps d'un week-end rempli de joueurs de poker. Des joueurs venus du monde entier. Nicolas Renaud de la société Unibet explique comment se fait la sélection des joueurs en prenant le cas de l'équipe française. On l'écoute.
On a plusieurs moyens de se qualifier. Vous avez dans un premier temps les satellites, qui sont donc voilà, c'est pour ça un peu pour viser la masse. C'est-à-dire que vous avez des tournois à 3 €, 10 €, 15 €, 30 € par étape sur Internet. Et donc les joueurs jouent les uns contre les autres et ensuite gagnent un package pour l'Unibet Open. Ensuite, on a notre team pro, donc composé de 4 joueurs, qui sont des vrais joueurs professionnels, qui eux, bien sûr, ont dans leur contrat tous les Unibet Open offerts. Ensuite, vous avez les qualifiés, mais via le site Unibet propre, c'est-à-dire les campagnes ou les promotions qu'on peut faire, mais sur tous les pays, pas uniquement la France. Donc là aussi, on peut encore avoir des Français. Et ensuite, après, vous avez des direct buy-in, qui sont les gens qui simplement les gens qui savent qu'il y a un Unibet Open qui va se passer à Prague et qui décident directement d'aller sur le site du casino et d'acheter leur buy-in.
Le poker sous différentes formes est joué aux États-Unis depuis la guerre de sécession au XIXe siècle, mais c'est l'apparition d'Internet et des jeux en ligne qui a provoqué ce boom à partir du début des années 2000. Le poker s'est donc développé, notamment sous la forme du Texas Hold'em, qui est une des variantes du poker la plus jouée dans le monde, avec deux cartes fermées dans les mains d'un joueur et cinq cartes ouvertes pour tous les joueurs. Le jeu est très à la mode ces dernières années et beaucoup d'entre nous ont déjà essayé au moins une fois, entre amis, une partie de poker. Ladislav Wiedermann nous parle du phénomène en République tchèque.
L'évolution est similaire à celle des pays à l'ouest où les garçons commencent à jouer sur ordinateur, puis ils achètent des cartes, un jeu de poker et jouent à la maison. Il y a des clubs de poker, les casinos proposent de plus en plus de tables de poker. Quand il y a une célébrité qui fait la promotion du poker, cela aide beaucoup. C'est souvent à ce moment que l'on parle du poker comme phénomène social. Les sites internet comme les nôtres aident aussi beaucoup au développement du jeu puisqu'ils peuvent s'entraîner, même gratuitement, avant d'intégrer un vrai tournoi. Donc, il est certain que le phénomène existe et je pense que pendant encore un ou deux ans, cela va encore augmenter.
Il est naturellement très difficile de mesurer cette mode et de compter le nombre de joueurs. Ladislav Wiedermann évoque entre une cinquantaine et une centaine de clubs de poker qui sont normalement enregistrés auprès du ministère des Finances tchèque. Chaque club peut compter de 20 à plus de 1000 joueurs, mais il est absolument impossible de savoir combien de personnes ont déjà essayé, ne serait-ce qu'une fois, le poker en ligne. Pas de Patrick Bruel non plus en République tchèque, même si la société Unibet a organisé l'année dernière pour la chaîne de télévision privée Nova un tournoi faisant participer quelques vedettes tchèques, des top modèles, chanteurs ou acteurs, comme Samer Issa ou Daniel Nekonechny. Pour terminer, on écoute le témoignage de Mathias Polov, un jeune joueur tchèque et présent dans ce tournoi et qu'on nous a présenté comme un bon joueur. On l'écoute.
J'ai aujourd'hui 19 ans et j'ai commencé à jouer au poker à 15 ans. Quand j'ai trouvé un club de poker sur Internet avec une carte d'identité étrangère, je me rendais sur ce site. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. J'étudie et je joue au poker, mais le seul argent que je gagne, c'est avec le poker. En République tchèque, c'est un phénomène important depuis un an et demi à peu près. Il y a deux ans encore, les grands tournois réguliers se jouaient dans un ou deux casinos. Maintenant, il y en a tous les week-ends et les joueurs peuvent choisir le niveau du tournoi. Mais j'y joue presque tous les jours et beaucoup sur Internet.
Sachez enfin qu'un Tchèque est arrivé troisième de cette Unibet Open de Prague. Il a raflé la mise de 67 600 euros.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague. L'actualité tchèque continue sur le web, cette fois-ci au www.radio.cz. Merci de votre fidélité. À bientôt. Bon vent. Ahoy. We'll be right back.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kilohertz, at 1030 hours on 9880 kilohertz. At 1300 hours on 11600 kilohertz, at 1600 hours on 9740 kilohertz, at 1700 hours on 9740 kilohertz, and at 2000 hours on 5930 kilohertz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kilohertz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kilohertz and at 0330 hours on 9445 kilohertz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.